entendu de la musique populaire en allumant votre radio. C'est quand Michael Jackson était encore noir.
The Cure. J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah,
bonsoir.
Bonsoir.
Les Canu Info du mercredi.
Bonsoir. On m'entend?
Oui, on t'entend. Il est 19h, passé de 1 minute, et c'est l'heure du Canu Info. Et de quoi on va parler ce soir?
Et ce soir, oh non, mais franchement.
Commence par aller.
C'est comme. Ben non, mais nouvelle chasse aux migrants aux États-Unis, merci. Est-ce qu'un jour, on va annoncer des trucs cool?
Non.
Juste après, ouais, parce que par exemple sur les sous-marins nucléaires de rage, Macron a failli se rouler par terre.
Grave. Expulsion illégale de migrants et migrantes dans une enclave espagnole au Maroc. Ouais, bon ben voilà, ça n'aura pas duré.
Et puis ensuite on parlera de la Grèce où moins de 15% des migrants et migrantes peuvent suivre une scolarité.
Criminalisation des actions écolo contre le trafic aérien.
Ensuite un premier bilan de la presque désubérisation en Espagne.
Flinguer les petits oiseaux à tout prix, Macron cède encore une fois aux chasseurs.
Et enfin, presque enfin, un changement de paradigme sur la reconnaissance faciale en Europe.
Et puis à Bure, il y avait un procès dont on avait déjà parlé ici, contre 7 militantes et militants, et ben, il y a eu des condamnations à de la prison ferme. C'est tombé hier.
Canu Info. Du mercredi.
10 000 migrants qui ont majoritairement fui Haïti, dévasté de nouveau par un séisme en août. Vous n'avez pas pu passer à côté. Et puis aussi par le chaos politique lié à l'assassinat de leur président, se retrouvent massés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Autant de raisons qui avaient poussé l'administration Biden à émettre un moratoire et à suspendre les expulsions de migrants haïtiens en situation irrégulière pour une durée annoncée comme indéterminée. Alors c'est un moratoire qui aura duré donc un mois, car dès mercredi dernier, les services migratoires américains ont renvoyé un peu plus de 80 personnes à Port-au-Prince. Et désormais, c'est par centaines que les migrants sont renvoyés. Hier, pas moins de 4 avions partis du Texas ont atterri à Port-au-Prince. Alors le gouvernement états-unien a dépêché des centaines d'agents de sa police des frontières, a réaffirmé que le territoire américain était fermé. Et Biden a ajouté avec cynisme que personne ne devrait faire ce dangereux voyage. Hein, ben certainement que si le choix était aussi évident, voilà, ce serait peut-être pas le cas.
Ah, on est bien content de plus, que ça soit plus Trump, quoi.
Exactement. Alors lundi aussi catastrophe, des migrants haïtiens coursés à cheval par des gardes frontières, frappés avec les rênes, tirés par leurs t-shirts. C'est ce que montrent des photos prises au Texas, où des milliers de migrants et migrantes s'entassaient sous un pont. Alors, hypocritement, la porte-parole de la Maison-Blanche a même reconnu que c'était horrible à regarder. Hein, le ministre américain de la Sécurité intérieure, qui est Alejandro Mayorkas, a lui affirmé que les migrants haïtiens recevaient de fausses informations sur la possibilité de rester aux États-Unis. Il a déclaré aussi que les États-Unis accéléraient leur processus de rapatriement vers Haïti, considérant un tel retour comme sûr pour eux. L'ONU fait part de son côté de son inquiétude et évoque une possible violation du droit international. Alors, dans la continuité de la politique d'Obama et de Trump, Biden s'apprête à multiplier les vols pour accélérer encore les expulsions. Comme tu disais, ben, on est à deux doigts de regretter Trump.
Canu Info.
Et on va parler sous-marin.
Ouh là là, quand les ministres et le président sont énervés comme ça, ça fait quand même sacrément plaisir, non ? Et dire que la semaine dernière, figurez-vous que juste avant de faire le Canu Info, j'avais vu dans les titres que je feuilletais comme ça sur Internet, j'avais vu que l'Australie venait d'annuler une grosse commande de sous-marins militaires français, qu'elle préférait acheter des machines à tuer les gens plutôt aux Américains. Et à ce moment-là, je m'étais dit, on n'en a rien à foutre. Parce que franchement, les contrats d'entreprise, d'État, de machin, c'est pas exactement ce qui fait le cœur des canuts info la plupart du temps.
Oui, puis quand c'est annoncé, ah, on a signé le plus gros contrat, ah, le plus gros contrat a été rompu.
Voilà, ça disait déjà dans l'éthique que ça faisait la gueule en France, mais en fait, c'est seulement le lendemain que ça a commencé à être vraiment bon, quoi. Alors Le Drian, Macron, là, tout le monde qui vient pleurer, crier, menacer comme ça, à l'antenne, les micros, les machins, oh là là là. Et tout d'un coup, c'est le vocabulaire moral qui est utilisé dans les affaires, alors que d'habitude, ils sont quand même bien capables de nous expliquer que généralement, quand ils vont visiter des dictateurs, que la morale, c'est une chose, mais enfin, les affaires, c'en est une autre. Et que y a toujours moyen de faire du business, y compris avec les pires crapules. Mais là, par contre, non, tout d'un coup, le business, la morale, c'est la même chose. Alors, c'est une trahison, c'est un coup de couteau dans le dos, il a dit Le Drian ou un truc dans ce genre-là. C'est des procédés qui se font pas entre alliés, c'est mal, c'est traître. C'est alors Macron qui, hier, avant-hier, je sais plus, qui allait bouder dans son coin, qui voulait pas aller à je ne sais quelle réunion de l'ONU parce que Biden y serait aussi. Ah non, moi, alors là, s'il y est, moi, c'est pas question que je vienne. Non, mais franchement, quoi. Le Drian qui se rend compte qu'il a oublié de rappeler son ambassadeur au Royaume-Uni, parce que là, comme il était hyper énervé, il a fait « Quoi ? L'ambassadeur aux États-Unis, il revient ! L'ambassadeur en Australie, il revient !» Et après, il a oublié celui chez les Rosebif. Résultat, il se rattrape après en cherchant à dire non, c'est pas parce que j'ai oublié, c'est parce que les Anglais, ils sont vraiment trop nuls et ça vaut même pas le coup de ramener l'ambassadeur. Je vous jure, je me rappelle plus comment il l'a formulé exactement, mais c'était ça le contenu, quoi. Il a dit qu'ils étaient, qu'ils étaient négligeables dans l'histoire. Alors, je dois dire que j'ai passé une semaine un peu accroché aux infos parce que j'attendais tellement que l'un ou l'autre, soit Macron, soit Le Drian, parce que ça a l'air d'être eux deux vraiment qui sont très 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 énervés, que l'un ou l'autre se roule par terre en hurlant. J'aurais trop aimé, mais personne n'est allé jusque-là, même si je pense qu'on n'est pas passé bien loin. Hein. Bon bref, tout ça pour dire que j'avais juste envie de redire un ou deux petits trucs qui n'ont pas été massivement dits sur cette affaire. Alors déjà, on rigole sur ces histoires de sous-marins et de leur mode de propulsion. Alors la France, elle proposait des sous-marins nucléaires, mais elle voulait bien les transformer en sous-marins diesel. C'était ça qu'ils faisaient pour les Australiens.
Pour la transition énergétique.
Mais c'est ça. Dans les deux cas, on se souvient qu'on est quand même sur une planète qui a quelques petits problèmes. Non, il y en a qui en ont entendu parler, qui devient petit à petit un petit peu inhabitable. Alors on se souvient que tous les dirigeants mondiaux braillent à toutes les occasions, que toutes les décisions doivent être conditionnées à leur impact environnemental, blablabla. Bon là, c'est des gros marchés, alors l'impact environnemental, hein. C'est vrai que ça peut passer au deuxième plan. Bon, les Américains, eux, ils font direct dans le nucléaire. On ne sait pas bien comment ça marchera de toute façon, parce que l'Australie, par ailleurs, n'a pas vraiment de quoi fournir le combustible pour des sous-marins nucléaires. Mais visiblement, pour l'Australie, en fait, ils filent de la thune aux Américains. Ils disent « Ouais, bon, bah, donnez-nous des sous-marins en échange », mais c'est surtout parce qu'ils veulent que les Américains les protègent contre les Chinois, s'ils doivent se bastonner contre les Chinois. Et là, ils se sont dit que Macron, il ne devrait pas se bastonner contre les Chinois, j'imagine. Mais alors, surtout, et ça on dirait quand même que tout le monde s'en fout, c'est qu'on parle bien de sous-marins militaires. Enfin, tout le monde s'en fout, en tout cas dans les médias français. C'est hallucinant comme ce truc n'est pas évoqué. C'est des sous-marins militaires. C'est-à-dire, c'est des armes. C'est-à-dire, ça fait la guerre. Ça sert à faire la guerre. Ça sert à tuer des gens, des chiens, des enfants, tout et n'importe quoi. Des Chinois, en l'occurrence, beaucoup. Et c'est étonnant à quel point tout le monde s'en fout et à quel point c'est pas un sujet. La France est un des plus gros vendeurs d'armes de la planète. La dernière fois que j'avais regardé, c'était le quatrième, je pense. Et tout le monde en France, bah, en fait, c'est même pas s'en fout, c'est tout le monde s'en félicite. Alors, le vocabulaire de la morale, dont je disais au début de ce sujet, qui venait de s'inviter dans le monde du business et des contrats à faire ou à défaire, en tout cas, il n'est pas du tout utilisé quand il s'agit de parler de la nature de ce qu'on vend. Quoi. C'est quoi ce qu'on vend ? C'est des armes. Et c'est bien toujours des armes. Avec ou sans nucléaire, hein, dans tous les cas. Et quel que soit le contexte international, les menaces en mer de Chine ou je ne sais pas quoi, c'est quand même des machines à tuer. La France et l'industrie militaire française viennent de perdre un gros contrat. Que la France, que l'industrie militaire française crève.
Et ben voilà, et ben sur ce, on va s'enchaîner avec une petite expulsion illégale au Maroc, entre vous, vous allez comprendre. Lundi, un groupe de 125 exilés réussit à pénétrer dans la mini-enclave espagnole nommée le Rocher de Valles de la Gomera. Voilà, merci, désolé pour l'accent. Alors, il s'agit d'un tout petit bout de territoire relié par une toute petite bande de terre au nord du Maroc, proche de la ville d'Al Saïma. Alors non, vous voyez, c'est pas Melia, c'est pas non plus Nador, c'en est, ou ni Ceuta, c'en est une autre. Voilà, alors là, ils se sont dit, on va tester un peu un tout petit peu moins militarisé, ce qui était quand même plutôt malin de leur part. Serge, un prénom d'emprunt, raconte leur périple au site d'Infomigrants. Il explique que le groupe, composé de 125 personnes originaires principalement du Congo, du Mali et de Côte d'Ivoire, a pris route dans la forêt près de Nador pour rejoindre le rocher de Vélez. 3 jours de marche ont été nécessaires, parfois pieds nus pour ne pas se faire repérer. Au bout de ces 3 jours, le groupe voit au loin le rocher avec le drapeau espagnol flotter. L'arrivée est donc proche, il faut encore passer des barbelés et déjouer la surveillance de la police marocaine. Ils ont décidé de courir pour passer la clôture. Là, la police donne quelques coups de matraque pour tenter de stopper les marcheurs et marcheuses. Mais dépassés par le nombre et la volonté féroce de franchir cette barrière, les forces de l'ordre marocaines sont contraintes d'abandonner. Alors pour Serge, je le cite, dans ces cas-là, peu importe la situation, tu fonces quand tu veux, car tu veux rentrer en Europe. Et puis, de toute façon, c'est ta dernière chance. Une fois les pieds posés sur le sol espagnol, c'est l'euphorie qui gagne le groupe. Serge raconte que les gens se sont mis à écrire sur un petit bout de papier leur identité et leur volonté de déposer une demande d'asile qu'ils ont donnée aux militaires. Alors vous voyez, parce qu'il y a toujours un peu cette espèce de règlement un peu international qui fait que quand on arrive dans un pays et qu'on dit qu'on veut et qu'on explicite clairement qu'on veut déposer une demande d'asile, et ben les pays en l'occurrence n'ont pas le choix de l'accepter, en tout cas n'ont pas le choix de l'étudier. Par la suite ils pourront la refuser, mais en tout cas la procédure est obligée d'être acceptée. Donc voilà, les militaires prennent les papiers, les militaires présents dans le fort, parce qu'il s'agit d'un espèce de fort militaire, avec l'assurance qu'ils allaient les aider. Bon, alors en gros, les exilés la patientent en plein soleil pendant 3 heures. Alors vous voyez, ils arrivent, en fait, ils passent les barbelés, ils ont affaire à un espèce de fort militaire occupé par les Espagnols. Ils patientent devant l'espèce de grande porte où les militaires leur disent qu'ils vont les aider, mais ils leur ouvrent pas non plus la porte, ils leur filent un peu d'eau, mais pas assez pour tout le monde. Bon, après plusieurs heures à patienter, les soldats sortent de la caserne, frappent et repoussent les migrants côté marocain. De l'autre côté de la frontière, hein, l'opération est conjointe. La police marocaine attend en nombre que les militaires espagnols expulsent manu militari les migrants. Migrants qui seront de nouveau frappés et forcés de monter dans des bus affrétés pour l'occasion. Alors après 12 heures de trajet sans eau ni nourriture, et sans qu'on leur explique un peu ni leur destination, le bus s'arrête en plein milieu du désert, en pleine nuit, près de la frontière algérienne. Et c'est seulement du coup après 6 heures de marche que les personnes ont réussi à rejoindre Benimelal. Alors Benimelal, c'est la première grande ville, une fois qu'on peut remonter vers le nord du pays et qu'on sort un peu du désert. Donc c'est en plein milieu du Maroc. Serge a réussi à rejoindre de nouveau Nador par un ticket qui lui a été fourni par une ONG. Et il précise que d'autres personnes cherchent encore des solutions pour rejoindre le nord. On va se reposer un peu, soigner nos blessures et tenter de forcer le passage vers Melilla. Quoi qu'il arrive, notre but est l'Europe. Alors, plusieurs personnalités militantes ont dénoncé une violation des droits de l'homme et de la femme. Le défenseur des droits espagnol saisi par plusieurs ONG, qui exhorte Madrid à respecter la Convention de Genève ainsi que la loi espagnole relative au principe de non-refoulement qui empêche les personnes ayant besoin d'une protection internationale d'être renvoyées sans procédure. Alors, la Convention de Genève, vous voyez, c'est celle dont je parlais au tout début qui demande que les procédures soient traitées, en gros. Comme le souligne Info Migrant, parmi ces 125 exilés refoulés, un groupe de femmes congolaises avait déjà réussi à entrer à Ceuta lors, vous vous souvenez, au début de l'été, durant le mois de mai exactement. Il y avait eu une tentative massive de passage de la frontière à Ceuta qui avait créé des bisbilles diplomatiques entre l'Espagne et le Maroc, le Maroc étant soupçonné d'avoir laissé passer, voire d'avoir orienté les gens. Bref, les personnes s'étaient retrouvées prises en étau dans les bisbilles diplomatiques. Ce jour-là, ces femmes avaient déjà voulu déposer une demande d'asile, mais avaient été renvoyées sans procédure au Maroc. Il semblerait donc que la diplomatie s'est rapidement réchauffée entre les deux pays, quand on voit le genre d'action conjointe qu'ils sont prêts à mettre en œuvre pour empêcher quiconque de pénétrer sur le sol européen.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors, la scolarité des migrants-migrantes en Grèce est catastrophique puisque moins de 15% d'entre eux et elles suivent une scolarité, donc ce qui fait un peu moins d'un tiers. Comme le dénoncent donc les associations Save the Children et le Greek Council for Refugees dans un rapport qui est publié le 15 septembre, qui a été publié le 15 septembre. Alors, fin 2020, la Grèce comptait 26 000 enfants demandeurs d'asile et réfugiés en âge d'être scolarisés, dont seulement un tiers l'était, ce qui était d'autant plus réduit au plus fort de la pandémie, puisque ce qui s'est empiré aussi dans les 5 centres d'enregistrement et d'identification, donc qu'on appelle RIC, mais qui sont en fait comme des CRA, quoi, mais grecs. Donc les 5 centres qui sont sur les îles de la mer Égée. Et là, ce pourcentage de scolarisation tombe à 0,3%, autant dire que pas un enfant migrant des îles de la mer Égée n'est scolarisé. Alors, dans leur rapport, les deux ONG dressent un tableau des obstacles à l'éducation des enfants réfugiés et appellent le gouvernement grec à répondre à ses obligations de scolariser ses enfants. Alors, pendant près d'un an, donc les jeunes réfugiés n'ont quasiment plus eu aucun accès à l'école en raison de la pandémie, de la fermeture des écoles, du manque de connexion Internet et de matériel informatique dans les camps du pays. Mais comme on peut quand même le lire dans le rapport, même quand les écoles étaient ouvertes durant les confinements, les politiques de restriction des déplacements étaient interprétées de manière différente par les responsables des différents camps. Ceci, associé à un manque de consignes claires du ministère de l'Éducation, a eu pour effet que certains enfants n'ont pas été autorisés à quitter le camp pour aller en classe. Donc on arrive à des situations surréalistes. Autre obstacle à la scolarité des jeunes, le transport scolaire. Selon les deux ONG autrices du rapport, la localisation des camps de migrants peut constituer l'un des facteurs empêchant les enfants de suivre une scolarité. Les lieux d'hébergement des réfugiés et les RIC se trouvent dans des zones isolées. Les transports scolaires sont donc un problème majeur. Un exemple qu'il cite, c'est le camp de Ritsona, où, selon l'ONG RSA, seuls 3 bus sur les 13 nécessaires au transport des élèves avaient été mis en place en avril dernier. Pour Bill Van Esvelt, responsable adjoint du département des droits à l'enfant à Human Rights Watch, la situation actuelle résulte d'un manque de volonté politique et d'un manque de responsabilité, pas d'un manque de ressources. Il rappelle que le rapport d'une ONG a révélé que la Grèce n'avait pas utilisé les fonds de la Commission européenne pour l'intégration des réfugiés l'année dernière. Je le cite, « L'excuse habituelle des autorités grecques est que les enfants dans les camps sont en mouvement et ne seront pas là pour longtemps, et donc que leurs familles ne sont pas intéressées par l'école. C'est vrai que personne ne veut rester coincé sur les îles pendant des mois ou des années, mais en réalité, beaucoup le sont. » Alors l'Union européenne a sa part de responsabilité. Je cite le rapport. Cette année, des camps isolés et fermés ont été construits grâce à des centaines de millions d'euros de la Commission européenne. Et pourtant, cette même commission ne soutient pas financièrement l'UNICEF qui a lancé un programme d'éducation en Grèce. Paradoxalement, l'UE affirme avoir alloué 3,45 milliards d'euros de financement à la gestion des migrations, en gros, à la Grèce, depuis 2015. Alors, gestion des migrations, on comprend bien que ça veut surtout dire refoulement. Y compris, normalement, des projets d'éducation. Et puis, 625 millions d'euros de soutien donc de la Commission européenne à la Grèce pour des écoles interculturelles. En 2020, l'Union européenne a aussi ajouté 816 millions d'euros au budget national de l'éducation à la Grèce, y compris pour les enfants réfugiés. Alors, des sommes qui ont disparu on ne sait où et on ne sait comment. Pourtant, le Comité européen des droits sociaux a estimé en janvier dernier que la Grèce violait les droits des enfants réfugiés, y compris le droit à l'éducation donc. La Grèce n'avait pas mis en place les mesures immédiates pour garantir l'accès à l'éducation que le comité avait indiqué nécessaire en mai 2019.
Canu Info.
On a pas mal parlé de ces histoires de trafic aérien, de leur rôle dans la pollution, tout ça, ces dernières années, et en particulier depuis le premier confinement, qui, époque bénie, avait vu la presque disparition totale des avions du ciel. Et puis, on a bien compris que le plan de redressement du gouvernement français en particulier, c'était de prendre énormément d'argent dans nos poches pour le fourguer à Air France pour ramener des avions en masse le plus possible. Tout ça, donc, encore une fois, puisque aujourd'hui, vous allez voir, je fais beaucoup de l'info écolo, là, mais tout ça, encore une fois, à un moment où, quand même, la planète devient inhabitable, en particulier à cause d'histoires de gaz à effet de serre, dont les avions sont quand même des énormes producteurs, quand ils volent. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est que, quand même, du coup, ces histoires, plus on en parle et plus il y a des gens que ça saoule, y compris dans tous ces petits jeunes qui trouvent que quand ils sont saoulés, il faut qu'ils le fassent savoir de manière un petit peu non seulement vide, mais même qui gênent les autres. Les bandes à Extinction Rebellion, Alternativa et que sais-je encore. Alors voilà, intrusion sur des pistes, avions bloqués et aspergés de verre, il s'est passé un certain nombre d'actions contre l'aérien et tout ça visant à réduire les fameuses émissions de gaz à effet de serre. En face, le gouvernement français, qu'est-ce qu'il fait ? Vous croyez qu'il écoute ? Non, il n'écoute pas, bien sûr. Il est plutôt bien déterminé à préserver l'activité transport aérien. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il criminalise. Alors, les actions, donc, qu'est-ce que ça a été ces derniers temps ? Le 26 juin 2020, 28 activistes de Extinction Rebellion sont entrés sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, le jour de sa réouverture juste après le confinement. Ils ont empêché un avion de Air Corsica de décoller, et ils ont tout ça en exigeant l'interdiction immédiate de tous les vols intérieurs pour lutter contre le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, ce sont leurs mots. Le 3 octobre 2020, c'est-à-dire l'automne dernier, c'est rien, un an, quoi, à l'appel de l'action non-violente COP21, des centaines d'activistes ont marché sur les aéroports à plusieurs endroits en France et ont réalisé ainsi la plus grande action qui avait jamais été menée dans le pays contre le secteur des aéroports. 87 militants ont notamment envahi les pistes de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle pour exiger la réduction du trafic aérien et l'abandon en particulier à Roissy-Charles-de-Gaulle du projet de nouveau terminal T4. Terminal 4, quoi.
Non, mais je prends souvent l'avion, t'es un trésor.
Le 5 mars 2021, au moment où Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, promouvait l'avion vert, 9 activistes de l'ONG Greenpeace ont trouvé que cette histoire d'avion vert, c'était bien joli, mais il fallait quand même l'illustrer. Et donc, ils ont balancé la peinture verte sur un Boeing. Bah oui, c'est ça. Un Boeing de la compagnie Air France, stationné à l'aéroport de Roissy, dénoncer le greenwashing du gouvernement et le manque d'ambition du projet de loi climat et résilience sur le volet aérien. Plus en plus offensif contre les géants des airs, le mouvement écologiste a enregistré quelques victoires, comme l'abandon de ce fameux terminal 4, T4, vous ne le dites même pas, vous n'avez pas su. Donc le T4 comme terminal 4 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, Et puis aussi en juin dernier, le projet d'aéroport en Andorre a été abandonné après une vive opposition. Mais bien sûr, les actions n'ont globalement pas eu l'effet escompté, regrette Sarah Fayol, qui a chargé de campagne à Greenpeace. Le gouvernement n'a pas bougé d'un iota. Ben oui, tu m'étonnes. Il faut voir qui c'est au gouvernement, hein. C'est pas des cadeaux. Les organisations de la société civile, Greenpeace, Notre Affaire à Tous, ANV COP21, Extinction Rebellion et d'autres collectifs locaux dénoncent notamment le manque d'ambition de la loi climat. Vous savez, cette fameuse loi qui faisait suite à la Convention citoyenne pour le climat. Le manque d'ambition, notamment dans les histoires de régulation du secteur aérien. Alors, deux trucs principalement. D'une part, la loi ne permettra pas de stopper les projets d'extension d'aéroports en cours, ce qu'avaient proposé les citoyens de la Convention citoyenne. Mais là, en fait, ça va être interdit pour les projets qui doivent être déclarés d'utilité publique en vue d'une expropriation. Ça, a priori, c'est interdit, enfin, pas toujours quand même. Mais donc, tout ça, ça veut dire que les aéroports de Nantes Atlantique, de Bâle-Mulhouse, certaines hélistations, des aérodromes d'outre-mer, ainsi que tout ce qui est rendu nécessaire par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires, tout ça n'est pas concerné par cette interdiction. Autant dire, il n'y aura
voilà
pas
rassurés.
Grand-chose.
Hein ? Nous voilà rassurés, non, parce que...
Oui. D'autre part, seuls les vols... Ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que... on en avait déjà parlé, reparlé, je vais le faire vite. Mais du coup, la Convention citoyenne avait proposé qu'à chaque fois qu'il était possible de passer en 4 heures d'une ville à une autre, en train, on interdise les liaisons d'avion entre ces deux villes. Bon, et en fait, dans la loi, c'est quoi ? C'est à chaque fois qu'il est possible de passer en moins de 2h30 d'une ville à une autre. Autant dire que qui... aurait l'idée de partir de Lyon pour aller en avion à Bourg-en-Bresse, quoi.
C'est par exemple, je crois que ça veut dire que c'était, ça correspondait, je crois, à une ou deux lignes que de toute façon Air France avait prévu de lâcher,
c'est ça.
Quoi.
C'est ça. C'est que comme tellement de choses dans cette loi, c'est que le gouvernement n'a cédé que sur les choses qui, de toute façon, n'allaient rien changer à rien. Et encore, en réalité, même sur le coup des 2h30, ces vols pourraient être maintenus si la moitié des passagers étaient en correspondance. C'est-à-dire qu'après, on reprenait un avion vers ailleurs. Autant dire rien.
Donc tu peux faire Lyon-Bourg-en-Bresse si c'est pour aller à Paris après.
C'est ça. Mais en fait, tu peux faire Bourg-en-Bresse-Lyon si de Lyon, après, tu repars à Paris.
Ouais.
Enfin, Paris, c'est déjà 2h en train.
Non, c'est 3.
C'est 3
ou 2
c'est au-dessus des 2h30.
Ouais. Ah oui.
Je veux dire autrement, ils n'auraient pas dit 2h30. C'est clair et net. À la fin, on voit bien que le gouvernement français veut surtout que tout reparte comme avant le Covid. Quoi qu'il en coûte, comme on dit dans ces cas-là. Hein, en l'occurrence, quoi qu'il en coûte en termes de gaz à effet de serre. Alors, pour que tout reparte, ma foi, il faut en prioritairement se débarrasser des gêneurs et des gêneuses. Et pour ça, le gouvernement a une méthode. Et une seule, ma foi. La criminalisation. Le 7 octobre prochain, 7... c'est ça, le 7 octobre dernier, finalement. Attendez. Non, pas du tout. Le 7 octobre prochain, 7 militants d'ANV COP21 seront jugés pour avoir occupé les pistes de l'aéroport de Roissy. Un mois après, c'est 9 activistes de Greenpeace, ceux de l'avion peint en vert, là, qui vont aussi être jugés. Alors, tous en cours jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 18 000 euros d'amende pour dégradation d'un bien d'autrui commis en réunion et perturbation du fonctionnement d'installations à usage aéronautique. Les 28 militants d'Extinction Rebellion qui avaient occupé le tarmac d'Orly, eux, ont déjà été condamnés à 750 euros d'amende, et on va en reparler juste après, pour manquement à la sécurité aéroportuaire. Et figurez-vous que pendant ce temps, lundi 13 septembre, l'arsenal juridique contre l'activisme climatique a même eu un petit coup de boost, mais alors un petit coup de boost qui est passé complètement en dessous des radars, puisque c'était en même temps qu'une autre loi complètement technique, une loi d'intégration du droit européen dans les domaines des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. Et là, il y a un petit alinéa qui a été rajouté, un petit article, qui mentionne que toute personne s'introduisant illégalement sur une piste d'aéroport pourra être punie, cette fois-ci, de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. c'est-à-dire une petite manifestation sur un tarmac, 6 mois de tôle, 7500 euros d'amende. L'étude d'impact du projet de loi ciblait ouvertement les actions d'Extinction Rebellion, d'Action Non-Violente COP21 et de Greenpeace, et la nécessité d'adopter des sanctions réellement dissuasives. Alors, mon sujet là est à peu près terminé, mais quand même, c'est le moment de rajouter une petite astérisque, une petite note de bas de page sur les gens qui ont été condamnés, en particulier c'était ceux qui ont déjà été jugés, ceux d'Extinction Rebellion qui ont occupé le tarmac d'Orly. Et ben avec eux, il y avait en particulier un journaliste du média qui s'appelle Reporter TE2RE, qui est celui sur lequel j'ai pris cet article et celui que je raconte maintenant, qui est un journal écolo sur internet. Ce journaliste qui s'appelle Alexandre Reza Kokabi, et ben ma foi, il faisait son boulot d'informer en pénétrant à la suite d'activistes du climat sur une piste de l'aéroport d'Orly pour raconter leur action. Il a été interpellé par la police, il a été embarqué, il a passé 10 heures en garde à vue, et comme si ça n'avait pas suffi, et ben maintenant il a lui aussi droit à son amende de 750 euros. Alors là, Reporters, ils sont pas contents. Ils ont vu rouge sur cette affaire. Et du coup, ils s'embarquent même un petit peu dans une prose un peu grandiloquente, dont je vais vous lire un petit paragraphe. C'est pour cela que nous nous appelons Reporters, être les reporters de la Terre. Non, vous allez voir après ça.
Parce que pour l'instant, c'était pas top.
Ouais, c'est vrai. Allez sur le terrain, regardez, écoutez, racontez. Si ce journal est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'on m'empêchait, en fait, l'article n'est même pas signé, mais c'est le boss de Reporter qui travaillait au Monde avant. On m'empêchait, dans le journal où j'étais alors, de faire ce travail, en l'occurrence à Notre-Dame-des-Landes, où la police attaquait violemment les écologistes qui défendaient cette zone humide. Il fallait créer un média libre où les journalistes iraient sur le terrain, regarderaient, écouteraient et raconteraient. Et si, depuis, nous multiplions les enquêtes et les analyses, au cœur de notre travail reste le reportage. C'est parce que nous étions sur le terrain que nous avons pu révéler que les gendarmes avaient tué Rémi Fraisse à Sivens, que nous avons pu documenter les violences policières pendant la contestation de la loi travail, que nous avons raconté la nouvelle offensive contre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Un des journalistes de Reporters y avait été blessé, une des journalistes de Reporters y avait été blessée. Que nous avons montré de l'intérieur comment on travaille dans les entrepôts d'Amazon. Que nous avons relaté des actions de militants écologistes comme celles consistant à occuper une piste d'aéroport. Parce que c'est vrai qu'une des catégories d'articles qu'on trouve sur Reporters, c'est vraiment des articles de reportage. Et qui souvent valent le coup. Et donc, qu'est-ce qu'ils expliquent aussi ? Ils expliquent qu'il y a eu d'autres journalistes qui se sont retrouvés dans la même situation, qui se sont retrouvés aussi sur des tarmacs, à occuper des tarmacs, mais qui, eux, pour le coup, ils ne sont jamais fait arrêter par les flics. Des reporters de France Télévisions, qui avaient pénétré sur une piste d'aéroport de Roissy le 3 octobre 2020 pour suivre des militants écologistes, ont été laissés libres de circuler une fois qu'ils ont montré aux forces de l'ordre leur carte de presse. De même, deux journalistes poursuivis pour des faits similaires sur le tarmac de l'aéroport d'Annecy, c'était en septembre 2020, ont été relaxés en avril et en mai dernier au titre de la liberté d'information. Bon, par contre, Reporter, ma foi, un journal un peu plus militant, du coup, le fait qu'il soit militant, ça fait que la carte de presse, elle vaut plus que dalle. Et en fait, la Reporter, ils sont bien décidés à ne pas payer l'amende, à la contester de toute la manière possible, et si jamais aucune des contestations ne marche, à continuer à pas payer.
Et c'est l'heure de la petite pause musicale et on va s'écouter House Gang avec le titre Chuck Berry.
pas si je suis à ma place. J'ai déjà brûlé la scène, te voiler la face, c'est te faire croire que l'inventeur du rock n'a pas du tout mes gènes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, oui c'est mon peuple qui portait les chaînes. Et dans les champs, au bas de l'échelle, oui c'est mon peuple qui portait les chaînes. Il faut faire ça dans la rock attitude de toute la bourgeoisie parisienne. Moi j'aime le clean, le blanc de mes pompes, le bleu de mon jean, c'est de l'hygiène. Paraître pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Paraître pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Marathon dans la musique, sa dignité, de peur qu'on lui prenne. A fait du blues, du jazz, du reggae, du rap pour lutter et garder forme humaine. Et l'Occident, qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même. Et l'Occident, qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même. Tu as le cuir, la coupe, les clopes, les bottes et la Fender. Les anecdotes, les enfants du rock, la collection lumineuse de ton père. Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines. Qu'est-ce que tu crois, cette histoire est la mienne. Moi je l'ai dans la chair et je l'ai dans les veines. Et puis qu'est-ce que tu crois, cette histoire est la mienne.
J'ai dit Jimi Hendrix et puis Jack Perry. Et puis Jack Perry, Jimi Hendrix. Et puis Jack Perry, Jimi Hendrix. Et puis Jack Perry.
Sont jamais prêts pour le choc que je produis chaque fois je m'amène. Anomalie du 93 avec une gueule caribéenne. Anomalie du 93 avec une gueule caribéenne. J'ai un penchant, je l'ai jamais caché pour les textes, l'autopsie ma haine. Ma bouche à tout, les jours des cartouches à cracher. Et du coup cela crée le malaise. Et je suis noir dans un monde blanc, c'est impossible que je le taise. Oui je suis noir dans un monde blanc, c'est impossible que je le taise. Sur la guitare, la batterie et la basse, je viens casser l'ambiance et apporter la crasse. Le rock est sans défense, je bouge dans tous les sens. Les arroser des sens, lui et donner la chasse. Oui j'ai les anges, je l'ai dans le sang. Dans mon élément, ça me va comme un gant. On m'a pas invité, c'est pas moi qu'on attend. Je viens représenter le clan des combattants. Dispo pour ma diaspora, plié par des tifourants. Pour ma diaspora, liée par des différents. J'ai dans la chair, j'ai dans les veines, car cette histoire est la mienne. Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines, car cette histoire est la mienne.
J'ai dit Jimi Hendrix, et puis Jack Perry. 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 Jimi Hendrix, et puis Jack Perry.
Alors, trois des patrons français de la chaîne de livraison Deliveroo viennent d'être envoyés devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé à la suite d'enquêtes de l'inspection du travail et de l'Office central de lutte contre le travail illégal. Les coursiers à vélo qu'ils employaient en les payant à la course étaient déclarés comme indépendants, mais leur dépendance et leur subordination à Deliveroo qui leur transmettait les commandes étaient totales. Ils ne disposaient pas de la moindre autonomie. Du point de vue de la loi, ils sont donc des salariés déguisés. Deliveroo, qui a donc recours à ces pratiques dans de nombreux pays, a déjà rencontré les mêmes problèmes avec la justice en Espagne. Et depuis août est en vigueur un texte du gouvernement espagnol qui pourrait être un exemple pour l'Europe, impose donc à ces entreprises de livraison de salarier leurs employés. Évidemment, elles cherchent la parade et c'est aussi une loi que les livreurs dénoncent pour être encore un peu trop timorés. Je vous enjoins à aller lire un article de Mediapart qui fait un état des lieux. Un mois après son entrée en vigueur, un article que si vous ne voulez pas lire, je vous résume là tout de suite.
Ouais.
Alors, à l'époque, donc c'était en août, la gauche gouvernementale s'était targuée de faire un pas historique que pas un État en Europe n'avait eu le courage de faire pour désamorcer, et encore moins outre-Atlantique, hein, pour désamorcer l'ubérisation des travailleurs travailleuses. Le texte veut mettre fin au recours à des travailleurs supposément autonomes dans le secteur en introduisant dans le Code du travail une présomption de salariat. bénéficiant à toute personne distribuant n'importe quel bien de consommation ou de marchandise au service d'une entreprise organisant le travail à travers une plateforme numérique. Alors Glovo, Deliveroo et autres Uber Eats avaient obtenu un délai de 3 mois après l'adoption de ce texte. Ah oui, il a été adopté en mai, pardon, et mis en application en août. Donc ils avaient obtenu 3 mois pour se mettre en conformité. Si les plateformes de livraison ont râlé, Deliveroo a quitté l'Espagne par exemple, les centrales syndicales et les collectifs ne sont pourtant pas tous satisfaits. Depuis 2018, les 48 décisions de justice sur le sujet ont toutes conclu que les livreurs étaient de faux autonomes. En septembre, autonomes dans leur travail, hein, ça fait bizarre cette phrase, mais en septembre 2020, la Cour suprême avait confirmé cette lecture dans un jugement qui a fait date. Et en tout, près de 50 000 travailleurs ont ainsi été requalifiés en salariés. L'une des porte-parole du syndicat informel Riders por Derechos explique « Lorsque le gouvernement nous a consultés, nous leur avions expliqué qu'une nouvelle législation n'était pas nécessaire à nos yeux, d'autant que les entreprises en face, elles, avaient toujours les mêmes arguments. La loi doit évoluer et s'adapter à nous parce qu'il y a insécurité juridique. Mais avec 50 décisions de justice qui vont toutes dans le même sens, il n'y a pas d'insécurité juridique. La loi est très claire, ils ont perdu partout. » La loi renforce l'analyse déjà formulée par la Cour suprême l'an dernier au sujet de la distinction entre autonome et salarié. Peu importe que le travailleur soit autorisé à choisir ses plages de travail et à refuser des commandes, ce qui joue, c'est de savoir qui détient l'outil numérique. Résume un universitaire, Adrien Todoli, qui est spécialiste en droit du travail. Une des avancées majeures de cette loi est que les représentants du personnel dans les comités d'entreprise des plateformes doivent désormais avoir accès à une partie de l'algorithme numérique, parce qu'en fait il est bien là le cœur de cette distinction, puisque l'algorithme numérique est utilisé par l'entreprise pour établir les horaires, pour distribuer les commandes entre les livreurs ou encore décider d'écarter un travailleur, en clair pour organiser le travail que normalement il ne devrait pas organiser si c'était vraiment des travailleurs autonomes. Donc, il reste à voir dans quelle mesure les entreprises se contenteront de ne livrer qu'une infime partie de leurs informations, puisque la loi ne les enjoint pas à tout livrer aux syndicats ou aux représentants du personnel. Alors, à l'inverse, Riders por Derechos regrette que le ministère n'ait pas suivi une autre revendication de son collectif, à savoir que la loi ne se penche pas seulement sur les droits des livreurs, mais sur ceux des travailleurs de toutes les plateformes numériques, puisqu'on soupçonne qu'il en est de même pour d'autres entreprises qui... Enfin, on parle d'ubérisation, c'est pas pour rien quand même. C'est que ça fait tache d'huile dans plein d'autres domaines. Et puis aussi, à critiquer que la hausse des budgets de l'inspection du travail ne suive pas, parce que sinon, on peut bien faire 50 lois. Si les plateformes n'appliquent rien, faute de contrôle ou d'un peu de surveillance de cette loi-là, eh bien, ça ne marche pas. Alors, du côté des entreprises, c'est le branle-bas de combat. Deliveroo était déjà à la peine en Espagne, avant l'adoption du texte, et il a donc accéléré sa sortie du pays. L'entreprise a initié un processus de licenciement collectif cet automne, avec 3871 postes concernés. Uber Eats, lui, a choisi de sous-traiter une partie des commandes, alors à des flottes éthiques de livreurs. Donc, j'ai trouvé la parade la plus rigolote et la plus poétique. Just Eat, qui fait encore bonne figure, ou en tout cas qui la joue plus malin que les autres en allant dans le sens des syndicats, a lancé cet été des négociations avec eux pour adopter un accord de négociation collective. Le directeur de la filiale espagnole de Just Eat a même fait une sortie un peu démago en disant « La création de nouveaux modèles commerciaux ne doit pas se faire en sacrifiant l'État-providence. » C'est beau.
Ouais, quand les entreprises parlent d'État-providence, généralement, c'est qu'elles ont envie que l'État y raque pour des trucs où elles pourraient aussi raquer.
Oui, par ailleurs, c'est vrai qu'il a peut-être ça en tête, oui. Alors, autre poids lourd du secteur, Glovo, qui a été lancé en 2015, présent dans 20 pays aujourd'hui, a adopté une autre stratégie. D'un côté, il s'est engagé à salarier 2000 des 12 000 livreurs qui travaillent pour la marque dans le pays. Mais de l'autre, il a mis au point un nouveau statut. C'est vrai que c'était trop simple de salarier. Un nouveau statut censé renforcer l'autonomie des livreurs et surtout, et voilà, finalement le sens inverse complet. Et surtout, apporter aux juges qui ne manqueront pas d'être sollicités dans les mois à venir des preuves de sa bonne volonté, c'est-à-dire les livreurs pourront désormais se connecter à l'application à l'heure qu'ils souhaitent, refuser des commandes ou encore sous-traiter à d'autres travailleurs la livraison. Voilà, encore plus malin. Devenez vous-même un algorithme.
Ubérisation au carré.
Exactement. Alors, chez Glovo, vague de protestations inédite en ce mois de septembre. Donc, Glovo, c'est cette entreprise qui a fait cette espèce de double statut, là. Vague de protestations inédite au mois de septembre. Une grève qui touche ces 6 supermarchés situés à Barcelone et qui, même, en paralyse certains. Jusqu'à présent, l'entreprise passait par des sociétés d'intérim pour payer les 344 livreurs dont elle a besoin pour livrer les commandes de ses Glove Market, mais les grévistes réclament leur intégration à l'entreprise. En écho lointain, le Parlement européen a adopté le 16 septembre une résolution. Donc une résolution, c'est quand même un texte sans aucune valeur contraignante, mais a adopté à une grande majorité une résolution qui plaide pour, je cite, « un cadre européen permettant de garantir aux personnes travaillant pour les plateformes numériques de bénéficier du même niveau de protection sociale que les travailleurs traditionnels de la même catégorie ». La Commission européenne donc, devrait présenter d'ici la fin de l'année les contours d'une future loi sur les services numériques. Voilà, tout ça risque de prendre plusieurs années et on n'est pas sorti de l'auberge.
Canu Info.
Et on va parler petit oiseau.
Et oui, on va rapprocher deux hauts moments de la vie politique et écologique française. Et en premier, ce congrès mondial de la nature qui était organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, c'était du 3 au 11 septembre à Marseille. Et pourquoi est-ce qu'on a entendu parler de ce congrès? C'est parce que Emmanuel Macron était à la journée d'ouverture de ce congrès pour montrer toute la bonne volonté, toute l'importance qu'il attache à la biodiversité, puisque c'était de ça qu'il était question, de ce problème de disparition de la biodiversité. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'espèces qui s'éteignent, donc il y a moins d'espèces. Donc la biodiversité, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'espèces. Et en soi, eh ben, ça pose un... Bon, au-delà du fait que c'est dommage, du fait que c'est des animaux qui meurent et c'est craignos, mais ça pose aussi un sacré paquet de problèmes écologiques. Le fait qu'il y ait moins de diversité d'espèces, de fait, ça pose plein de problèmes. Entre autres, tiens, par exemple, des histoires de naissance de pandémie, de multiplication des risques de pandémie. Voilà, en tout cas, Macron était à ce congrès, et là, il y allait, hein. Il a pas hésité à dire les choses, à dire le vrai, vous voyez. On voit bien que le climat, a-t-il dit, la nature et l'humanité sont inséparables. Et je pense que nous le mesurons beaucoup mieux, malheureusement, depuis que nous avons vécu cette pandémie de Covid-19, parce que nous avons fait l'expérience de notre ancrage dans le vivant.
Eh ben oui.
C'est important,
c'est hyper important.
Il a aussi dit, blabla, qu'il fallait faire comprendre à tous... Lui, il dit pas à tous et toutes, hein, nous on essaie, mais Macron non. Que la bataille pour le climat et contre le dérèglement climatique est jumelle de la bataille pour préserver et restaurer la biodiversité. Et que l'une et l'autre se nourrissent. L'une l'autre, il voulait dire. Il a dit l'une et l'autre, mais... C'est parce qu'il a mal lu son discours. Bon, Macron, en fait, n'a passé qu'une journée à ce congrès. Le congrès, du coup, a commencé le 3 septembre, il a duré jusqu'au 11. Entre-temps, bah, vous savez ce que c'est quand on est président de la République, on a d'autres choses à penser, l'ancrage dans le vivant, la biodiversité, tout ça, c'est bien joli, mais enfin, il y a aussi d'autres soucis. Le 11 septembre, à la fin du congrès, les membres de l'UICN, mais c'est-à-dire les membres de l'UICN, Macron n'était plus là, mais par contre, l'UICN, c'est un gros truc, c'est un truc dans lequel il y a des États, dont l'État français, des agences gouvernementales et des ONG. Et donc, ces membres avaient toutes les peines du monde à trouver des mots assez forts pour décrire la gravité de la situation. L'humanité, dit la déclaration finale, l'humanité a atteint un point de bascule. Des activités humaines insoutenables pour la planète continuent d'aggraver la situation, menaçant, écoutez bien parce que quand même les mots sont forts pour le coup, non seulement notre propre survie, mais aussi la possibilité même d'une vie sur Terre. C'est de ça que parlaient les organisateurs de ce congrès où Macron avait passé une journée. Donc la possibilité d'une vie sur Terre, on peut quand même difficilement imaginer un sujet plus critique. Hein. Mais pour Macron, malgré tout, il y a un sujet qui est quand même autrement plus critique et qui est celui de sa réélection. Il reste convaincu, ce Macron, il reste étonnamment convaincu que son lien avec ce qu'on appelle les territoires, ce qu'on peut aussi appeler juste la cambrousse, ou chez moi par exemple, que ce lien donc c'est les chasseurs. Et comme il sait qu'il n'est pas bien aimé dans les cambrousses, bah, ma foi, il va droit au but, ou à ce qu'il imagine être le cœur des campagnes, les chasseurs. Alors, à mon avis, c'est une erreur, hein. Parce que dans les cambrousses, je pense qu'il ne se rend pas compte qu'il y a quand même sans doute bien plus de monde qui est saoulé par les chasseurs. Les brutes du dimanche, le fait que 6 mois par an, c'est vraiment craignos de se balader en forêt le dimanche, parce qu'on risque réellement une balle perdue. Je veux dire, tous les ans, les chasseurs, ils butent une douzaine d'humains, et parmi lesquels la majorité sont des chasseurs, mais enfin, tous les ans, il y a aussi une grand-mère, un randonneur, un cycliste, ou je ne sais quoi, qui s'en prend une. Et donc les gens dans les campagnes sont saoulés, et par le fait aussi que les chasseurs, c'est vraiment les gens qui se croient tout permis. Je veux dire, c'est les gens qui ils sont chez eux partout, quoi. Ils sont chez eux dans la cour de ta maison, ils sont chez eux partout. C'est quand même vraiment saoulant, et ce qui fait qu'en réalité le fait de tout céder aux chasseurs, je suis pas persuadé que ça rende Macron si populaire que ça dans les campagnes. Mais enfin bon, c'est sa politique à lui, c'est sa manière d'y aller, ma foi. Et comme Macron reste persuadé donc que les chasseurs lui rapporteront les voix des ploucs, et malgré donc le fait qu'on parle de la possibilité même d'une vie sur Terre, quand on parlait de la biodiversité, là il y a une minute, voilà que le président décide, 4 jours après la fin de ce congrès, donc le problème c'est la possibilité même d'une vie sur Terre, et bien là Macron il décide, ma foi, de mettre en consultation plusieurs projets d'arrêtés pour réautoriser en fait le piégeage de 115 000 oiseaux, en particulier des alouettes des champs, des vanneaux huppés, des pluviers dorés, et le piégeage par le biais de méthodes de chasse dites traditionnelles. Et ça veut dire sans fusil.
C'est sa politique, c'est la politique du « en même temps ».
C'est ça.
Et en même temps.
En même temps, on va au congrès. En même temps, ce qu'on fait en sortant, c'est complètement l'inverse de ce qu'on a dit qui était extrêmement important. Et les fameuses techniques traditionnelles sont des techniques qui ne sont pas conformes au droit européen, qui sont donc illégales en Europe, et qui, le Conseil d'État, le 6 août dernier, c'est tout neuf, hein, vient de juger qu'elles sont, oui, elles sont illégales, juste, on n'a pas le droit, c'est pas possible d'avoir une loi qui autorise ça en France. Alors oui, c'est vrai, Bruno Oberlé, le directeur général de l'UICN, donc les fameux l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, lui, il dit que le temps est venu d'un changement fondamental. C'est vrai, répond donc la France, en la personne de Macron et du ministère de la Transition écologique. C'est vrai, peut-être qu'un changement fondamental, c'est bien. Mais nous souhaitons malgré tout pouvoir continuer à enfreindre la loi pour permettre à 0, pas grand-chose, % des Français, pour leur permettre de s'adonner au plaisir de tuer des dizaines de milliers d'oiseaux en voie de disparition. Parmi les espèces qui sont ciblées par ces projets d'arrêtés, donc, on a quoi ? Ben, on a des espèces qui ont vu leur population se réduire énormément en Europe au cours des 30 à 40 dernières années. Le vanneau huppé, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus, mais enfin, ces espèces-là.
Que des chouettes noms qu'on n'a pas du tout envie de buter, quand même.
Hein ?
Que des jolis noms qu'on n'a pas envie de buter.
Oui, bah, en plus.
Je veux dire, c'est pas comme si c'était le pigeon cendré, par exemple.
Mais ça, figure-toi que c'est l'objet de mon prochain paragraphe.
Ah, punaise.
Non, qui va être rapide. Hein. Non, c'est même pas l'histoire du nom, mais c'est que je voulais dire que là, on ne parlait même pas du problème moral ou poétique ou juste de ce qui peut être la décence humaine ou avec qui on se sentirait d'être pote, quoi. Il faut quand même déjà être un sacré connard pour aller le dimanche, comme disait Renaud quand son cerveau n'était pas encore mariné dans l'alcool, pour aller flinguer les petits oiseaux. C'est-à-dire, déjà, en soi... c'est quand même bizarre.
Oui, c'est pas le sanglier après avec lequel tu as bouffé, quoi. Ça fait
ouais,
quand même deux trucs différents.
C'est ça. Mais là on parle de gens qui. C'est encore bien pire que ça. On parle de gens dont le plaisir est de mettre de la glu sur les branches, d'attendre que les oiseaux viennent s'y coller. C'est plus de la tuerie simple, c'est vraiment le plaisir de la torture. Pour le coup, c'est clair et net, c'est ça. Mais de la part du président, c'est encore autre chose, c'est juste de la pêche aux voix. Et comme le demande un article du Monde qui parle de tout ça, comment croire à la réforme systémique promise dans la déclaration finale du congrès de l'UICM lorsqu'un État comme la France se montre réticent à faire le minimum et le minimum du minimum, c'est-à-dire simplement appliquer la loi afin de ne pas entraver des activités aussi marginales et contingentes, nous dit l'article, c'est-à-dire des trucs qui concernent quasiment personne, des activités comme la chasse traditionnelle aux passereaux. Et est-il si impérieusement nécessaire de tuer des grives musiciennes ou des vanneaux huppés ? L'article continue en demandant pourquoi penser que la France va, comme s'y engageait le président Macron, renforcer les investissements favorables à la biodiversité, notamment les solutions qui appuient la transition écologique dans l'agriculture, alors que la France est en même temps en train d'envisager une réduction énorme des aides au maintien de l'agriculture bio et qu'elle vient de réautoriser l'usage des néonicotinoïdes interdits depuis 2018 pour les risques environnementaux qu'ils représentent, les néonicotinoïdes. En sachant que, bien sûr, Macron, à ce même congrès de l'UICM, s'est aussi enflammé sur le fait que non, mais le glyphosate, maintenant, il fallait en sortir. Mais pour le coup, il promet plus d'en sortir en tant que France. Il dit que c'est à l'échelon européen qu'il faut s'attaquer. Comme ça, au moins, après, il pourra toujours dire « Non, c'est les autres, ils n'ont pas voulu. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, blablabla. » On se rappelle que c'était une de ses promesses de sortir du glyphosate. Quand il a été élu, bon, voilà, ça, c'est clair, c'est net. Enfin, bref. Tiens, et cet article soulève aussi un fait qui serait amusant si le sujet n'était pas, en vrai, hyper grave. Ce congrès de l'UICM était, ma foi, sponsorisé ou parrainé ou avait comme partenaire, ma foi, quelques marques. Nutella, Veolia, BNP Paribas. Alors, c'est une autre étrangeté, nous dit toujours ce même article. En tout cas, c'est un signal que la question environnementale ne soit pas envisagée vraiment avec le même sérieux que d'autres questions, que les questions sanitaires, par exemple. Et l'article demande « Que penserait-on d'un congrès mondial contre le cancer sponsorisé par Philippe Maurice ou Pernod Ricard ?» Je ne suis pas en train de citer un article de CQFD, hein. Je parle d'un article du Monde. Ça serait bien sûr inimaginable. La protection de l'environnement n'est pas seulement le domaine des paroles en l'air, c'est aussi celui du brouillage délibéré de la frontière entre l'intérêt général et les intérêts particuliers.
Radio Canu. Canu Info.
Alors, eh bien, pour finir rapidement, hein, la quadrature du net nous alerte sur un changement de paradigme sur l'extension de la possibilité pour la police de recourir à la reconnaissance faciale. Alors, cette même quadrature du net nous rappelle que depuis 2016, un article interdit aux États membres de l'Union européenne d'analyser des données biométriques à des fins policières, sauf, je cite, en cas d'absolue nécessité. Alors, ce qui veut dire que la reconnaissance faciale est possible que dans des cas exceptionnels et qu'elle est quand elle est indispensable et que la police ne dispose d'aucun autre moyen pour lutter contre une infraction. Alors pour ça, pour la quadrature qui sont plutôt des potes, il s'agit d'un sacré verrou. Donc dans les faits, la police échoue systématiquement à démontrer le caractère de nécessité absolue d'utiliser de telles technologies. Or, la Commission européenne a déposé un nouveau projet de règlement sur l'IA, l'intelligence artificielle, déniché donc par nos amis, qui, dans l'article 5, veut poser un nouveau cadre juridique pour certains usages de l'intelligence artificielle, et notamment, je cite, « les systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public » à des fins répressibles. Fin de citation. Dans cet article, la nécessité absolue est remplacée par une mise en balance entre l'intérêt policier et les dommages de cette surveillance causée aux populations. Pour les juristes de la quadrature, le changement est abyssal. Avec la police, avant, la police à elle seule devait fournir la preuve de l'intérêt de mettre en place un tel dispositif. La population n'avait alors pas à démontrer de son côté que ses libertés étaient affectées. Ses libertés étaient en quelque sorte sanctuarisées, sauf en cas donc d'extrême nécessité. Si ce décret passe, tout sera mis sur le même plan. Intérêt de la police et liberté individuelle. C'est-à-dire qu'en grosso modo, le législateur ou la législatrice devra mettre en balance il y a les intérêts de la police, il y a aussi les intérêts de la population. Grosso modo, tout ça pèse pour un poids ou un autre. Les CNIL d'Europe se sont mises d'accord dans un avis d'une rare franchise, souligne la quadrature. Je cite, l'identification biométrique à distance réalisée dans le contexte de manifestations politiques est susceptible d'avoir un effet dissuasif significatif sur l'exercice des droits et libertés fondamentales tels que la liberté de réunion et d'association et, plus généralement, le principe fondateur de démocratie. Ces graves et irréversibles effets sur les attentes raisonnables de la population à être anonyme dans l'espace public porterait directement atteinte à l'exercice de la liberté d'expression, de réunion, d'association et de circulation. Bref, ce qui est un des fondements dans nos républiques et démocraties en Europe. Alors, le risque que le faux équilibre annoncé par la Commission finira toujours en défaveur de la population et la quadrature de conclure. Au contraire, la police n'aura aucun de mal à monter en épingle le moindre fait divers pour affirmer que telle ou telle technique de reconnaissance faciale serait à tout prix indispensable. Voilà, affaire à suivre. Et on enchaîne par une toute petite info rapide. Ah vas-y, non, bah, pas de générique, on n'a pas le temps.
Ok, d'accord. Allez, je me grouille. Eh bien, on vous en avait déjà parlé ici. 7 personnes militants et militantes antinucléaires à Bure étaient jugées à Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, donc, avec un nom pareil, on se demanderait même s'il y a une boulangerie, mais en fait, il y a même un palais de justice. Ils ont été jugés au printemps dernier, ça je retrouve pas la date, mais c'est pas grave. Et on a eu le verdict hier. Et ben figurez-vous, alors ils étaient jugés pour tout un paquet de trucs un peu énormes, comme l'incendie d'un hôtel dans lequel dormaient des personnels de CIGEO, comme la dégradation d'une sorte de conservatoire d'échantillons de l'environnement qui appartenait à l'ANDRA, donc l'Agence Nationale des Déchets Radioactifs, pour le fait d'avoir organisé une manifestation non déclarée le 15 août 2017. Et tout ça en bande organisée. Alors l'enquête qui a été une enquête gigantesque, une enquête qui a coûté un fric de dingue, une enquête dans laquelle il y a, je me rappelle plus, mais des mois et des mois de conversations téléphoniques, si on les met toutes les unes à la suite des autres, je crois que c'est même 15 ans de conversations téléphoniques, enfin une enquête avec des moyens incroyables. Tout ça n'a pas permis de savoir qui avait foutu le feu à l'hôtel, n'a pas permis de savoir qui avait dégradé l'écothèque de l'ANDRA. Les juges, suite à tout ça, ont décidé qu'il n'y avait pas de bande organisée. Malgré ça, et donc pour le seul chef d'inculpation qui reste, c'est-à-dire organisation d'une manifestation non déclarée, ils ont été aussi aujourd'hui condamnés à des peines de prison jusqu'à des peines de prison ferme. Alors, ils ont été condamnés à des peines différentes, à des peines de prison allant de 6 mois avec sursis à 12 mois ferme. Et oui, 12 mois ferme pour une manifestation non déclarée. Pour l'instant, le tribunal n'a pas donné ses motivations, ses attendus, je crois qu'on dit ça, et ce qui fait que les avocats attendent d'avoir ça pour décider de faire ou non appel.
Et on laisse la place à Idée Noire. Merci de nous avoir écoutés. Désolé pour le retard.
Canu. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info. C'était le Canu Info.